Welcome to La Crème Anglaise. Je suis Sarah Lesage et chaque semaine, je vous invite dans mon salon de thé avec un de mes compatriotes pour déguster une spécialité britannique de mon cake stand pour mieux savourer l'histoire, la culture, les bonnes manières de Sa Majesté et les excentricités de la cuisine de chez moi. Aujourd'hui, je suis avec Emily avec un dessert gourmand sur mon cake stand, le treacle pudding. Oui, un pudding, mais c'est certainement pas tout à fait le pudding comme vous l'imaginez. Et on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est en réalité le pudding en Grande-Bretagne. Alors, il y a une délicieuse sorte de caramel, un ingrédient iconique pour les Britanniques qui est au cœur du dessert d'Emily. Et elle l'a servi au cours de sa participation de l'émission « Un dîner presque parfait ». Emily n'a pas gagné malheureusement avec son repas franco-britannique, car lui est arrivé quelques mésaventures qu'on va vous faire découvrir. So, pinky up and let's get started. Alors, Emily a grandi dans une famille franco-anglaise. Son papa est français, sa mère est anglaise et d'ailleurs, vous l'avez déjà peut-être entendu dans un épisode sur le roast pork et crackling. Comment c'était, Emily, de grandir dans une famille franco-anglaise en termes de cuisine?
C'était très intéressant parce qu'on a grandi avec plein de variétés de plats différents. Maman a cuisiné énormément, mais elle a appris aussi avec la famille de papa. Donc, elle a appris à cuisiner anglais et français. Donc, on a eu, comme notre éducation, une nourriture franglaise.
Donc, c'était la cuisine anglaise, mais peut-être un peu plus raffinée, enfin, avec des bons ingrédients et un petit touche française.
Oui, c'était toujours très raffiné. Il y avait toujours, par exemple, quand c'était une viande, il y avait une viande, un ou deux légumes, et puis souvent des pommes de terre. Et les pommes de terre faites façon anglaise, donc cuites dans de l'eau et secouées un peu, et après crusty dans le four. Donc c'était vraiment les plats qui étaient faits de cette façon-là, et toujours avec de la sauce, évidemment.
Alors, en dehors de la très bonne cuisine de ta mère, comment tu trouves la cuisine anglaise en général et pourquoi tu penses qu'il a si mauvaise réputation?
Alors, je suis peut-être pas le meilleur exemple, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé que la cuisine anglaise était absolument délicieuse. Dès qu'on allait dans la famille, on avait toujours des plats extraordinaires, donc c'est exactement ce que je disais, un plat avec de la sauce, des légumes variés toujours, des pommes de terre, souvent des légumes du jardin aussi. Mais quand on était petit, on faisait nos voyages scolaires en Angleterre, et on arrivait dans ces familles où on repartait toujours avec, pour le midi, un espèce de pique-nique. Et je dois avouer, c'était vraiment pas bon. Donc, je pense qu'en fait, les Français, on a dû garder cette idée de la mauvaise nourriture de par nos voyages à l'étranger, donc en Angleterre, avec ces sandwichs le midi qui étaient pas très conséquents et pas très, très, très bons, je l'avoue. Mais moi, j'ai toujours eu de la très bonne nourriture.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'avais lancé des échanges linguistiques parce que j'en avais entendu parler tellement d'histoires malheureuses où les enfants allaient dans les familles qui faisaient vraiment ça que pour l'argent. Et midi, c'était un petit triangle, un sandwich avec la panne de mie industrielle, quelque chose entre et un paquet de chips et c'était tout. Mmh. Et le soir, peut-être un pizza décongelé, mais enfin, en tout cas, c'était vraiment pas très bon.
Exactement.
Et donc, je pense que ça a largement contribué, même si c'est pas pour moi la raison principale.
Mmh. Je pense aussi.
Alors, je sais que du coup, tu adores cuisiner et que tu as participé à une émission de télévision, Un dîner presque parfait, qui était fondée sur une émission de télévision britannique, Come Dine With Me. Comment ça s'est passé à l'émission?
Ah, c'était très, très drôle. Alors, j'ai fait cette émission à cause de mon frère, et je dis bien à cause de mon frère, qui m'y a un peu poussée. Et c'était vraiment en fait une expérience très très amusante. On dîne avec 5 personnes que l'on ne connaît pas, enfin 4 autres personnes que l'on ne connaît pas, et on est reçu chaque jour chez quelqu'un. Donc c'est toujours un peu la surprise. Et l'objectif c'est de faire entrer les personnes dans notre univers, leur faire goûter un plat, créer une ambiance et puis faire tout un petit décor autour. Et on est noté sur ça.
Ah d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as préparé, un repas français ou anglais?
Alors moi, justement, j'ai joué sur le côté franco-anglais. J'ai mélangé un petit peu de tout. Mon animation était anglaise, donc avec des crackers. L'apéritif, c'était un mix franco-anglais aussi, donc où là, j'ai fait goûter le Marmite, parce que pour moi, c'était inévitable de leur mettre le Marmite et le pot et qui découvrent l'odeur et le goût. Et je sais que tu avais fait un petit podcast là-dessus qu'on a beaucoup aimé. Et puis j'avais fait un repas très français, le plat était français.
Et tes convives, comment ils ont aimé le Marmite?
Alors j'ai eu les deux réactions, j'ai eu exactement comme dans la pub, you either love it or hate it. J'ai eu deux personnes qui m'ont absolument détesté et qui ont été incapables de le manger et ont demandé à avoir du pain. Et les autres, deux autres qui étaient peut-être un peu plus aventureux et qui n'ont pas aimé, mais qui ont dit que c'était pas aussi horrible que ça en avait l'air. Voilà. Alors pour le plat, donc j'ai fait un plat vraiment français où là j'avais fait du fenouil, du poisson et une tapenade d'olives noires dessus. Et en dessert, j'avais voulu faire un dessert anglais que ma grande tante m'avait fait découvrir chez elle et qui était absolument merveilleux et que j'avais appelé le Sunny Trickle, qui est en fait un trickle pudding.
Mais trickle comme les melasses, parce que j'ai vu que tu m'as montré le recette que tu as noté et c'est très mignon parce que c'est pas écrit exactement de la bonne manière.
Mais non, justement, moi je savais pas du tout comment ça s'écrivait et moi je pensais qu'un trickle, je sais pas pourquoi, je m'étais dit un trickle c'est une petite farce, c'est une surprise. Et comme dans le gâteau il y a une surprise, et ben je pensais que c'était le gâteau à surprise et c'est pour ça que je l'avais appelé la surprise de Sunny, donc de ma grande tante. Et c'est pour ça, donc j'étais pas du tout.
Oh, c'est très mignon. Alors, c'est le dessert que tu as choisi aujourd'hui, mais juste avant, tu as parlé d'autre chose que je pense qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que c'est les crackers?
Ah oui, les crackers, ah ben ça c'est la tradition anglaise à Noël. À chaque repas de Noël, on sort, qu'on soit en France ou en Angleterre, on amène notre paquet de crackers. Et les crackers, c'est des petits cônes qu'on craque, donc en croisant nos bras. Et chacun en a un dans ses mains et on tire et ça fait un petit feu d'artifice ou un petit claque. Et dedans, on a un cadeau, une couronne et une super blague.
Enfin, entre nous, les blagues sont en général assez moyennes, mais on rigole quand même.
Bah nous on rigole et je dois avouer qu'au dîner presque parfait mes convives n'ont pas du tout compris les blagues, j'ai dû les expliquer et quand on explique ça n'a pas le même effet.
Bah surtout si c'est l'humour britannique, peut-être ça se traduit pas toujours bien.
Non, ça se traduit pas.
Alors moi ton trickle pudding, moi aussi j'ai des très bons souvenirs. En fait nous on mangeait ça en vacances au camping parce que mon père militaire, il avait toujours ses rations de combat avec lui.
Ouais.
Et là-dedans on avait plein de tubes et de boîtes de conserve extraordinaires. Je me rappelle juste le miel en tube et puis le trickle pudding dans cette boîte de conserve qu'on bouillait dans de l'eau. Et puis qu'on l'ouvrait et on mangeait directement dans le pot et c'était absolument délicieux.
Ah oui, ça devait être sympa.
Ouais. Alors avant de peut-être parler plus du trickle pudding, je pense que c'est très important qu'on essaye de comprendre et expliquer le mot pudding.
Ouais.
En général. Parce que pour moi, les Français, dès que tu dis un pudding, ils pensent tout de suite au Christmas pudding.
Ouais.
Ou même peut-être une espèce de gelée, parce qu'en général, ils me font un signe avec des mains qui bougent pour dire que ça...
Pour montrer la gelée qui bouge.
Voilà. Donc, déjà, il y a deux choses. C'est un mot générique. Le pudding veut dire tous les desserts, surtout dans les classes moyennes et aristocrates. Si on était dans une classe plus populaire, on parlait plutôt de desserts, de desserts.
D'accord.
Mais maintenant, je trouve le dessert, elle est venue beaucoup plus courant. Et le pudding, le mot, c'est un peu old-fashioned, un peu démodé.
Ouais.
Mais ensuite, on a la vraie origine du pudding en soi. C'est une invention britannique qui s'est développée à partir des saucisses que les Romains ont apportées dans le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ouais, déjà, on est pas mal parti, je pense.
Donc, on avait un pudding salé.
Voilà. Alors, le mot vient du latin « botellus », ce qui veut dire « saucisse ». Et le mot français « boudin » a la même racine.
D'accord. Ah oui.
Et d'ailleurs, le boudin en anglais s'appelle un « black pudding ».
Black pudding, exactement. Ouais.
Donc, on comprend tout de suite pourquoi on est déjà confus. On peut dire donc que les premiers puddings étaient des intestins farcis qui étaient ensuite fermés comme une saucisse.
Oui.
Et bouillis dans l'eau, souvent en même temps qu'un morceau de viande et des légumes. dans une grande espèce de marmite. Et au départ, il n'y avait pas la notion de dessert. Le sucré, le salé, tout était mélangé. Et au fur et à mesure que les épices, le sucre et tout ça est arrivé en Angleterre, c'était rajouté. Et puis avec la cuisine, on a commencé à séparer les choses bien plus tard. Et depuis, les vrais puddings, le vrai pudding, si on veut être vraiment juste, sont les desserts qui sont cuisinés au bain-marie, comme un Christmas pudding ou comme ton treacle pudding.
Comme le treacle pudding, oui.
Mais on a aussi des versions salées encore, comme le steak and kidney pudding, ce qui est différent du pie que Nathalie nous a présenté dans un autre épisode, parce que là, le steak and kidney pudding est aussi cuisiné dans un bassine fermé avec un morceau de mousseline, dans un bain-marie, alors que le pie de Nathalie est enfourné. Alors, ça peut être clair comme ça, mais il y a beaucoup d'exceptions, parce qu'on est en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc, par exemple, le Yorkshire pudding.
Oui.
Tu connais ça?
Oui.
Voilà. Absolument délicieux. C'est une espèce de pâte montée, mais qui accompagne le Sunday roast. Mm-hmm. Mais ça, ça cuit dans le four. Et puis, le Bakewell tart, que j'ai décortiqué avec Elizabeth dans un épisode. Oui. Il y a également un Bakewell pudding, mais en fait, ils ne sont pas très différents parce que les deux sont cuits dans le four. Donc, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Le mot pudding, même s'il y a des puddings bien précis, il est finalement devenu un mot générique pour parler de plein de desserts. Voilà. Est-ce que toi, en tant que franglaise, c'est plus clair pour toi?
Ben oui, c'est beaucoup plus clair. Mais je comprends du coup aussi le côté un peu paradoxal et l'incompréhension parfois des Français, mais même aussi des Anglais finalement, mais des Français à savoir ce qu'est vraiment le pudding. Et comme tu disais au début, moi, tous mes amis ou les gens à qui on parle et on dit « Oh, ben on a eu un pudding », tout de suite, c'est « Ah, le Christmas pudding !» Et en fait, il n'y a pas que ça. Donc, c'est très intéressant de découvrir ça.
Alors, on a une phrase en anglais, « The proof is in the pudding », la preuve est dans le pudding, qui veut dire que ce n'est que les résultats qui comptent. Mais la phrase d'origine, c'était « The proof of the pudding is in the eating ».
Il faut goûter pour savoir.
Qui veut dire qu'il faut goûter pour savoir si c'est bon.
Ouais.
Et moi, je me dis, on peut bien imaginer que ça vient du fait que nos saucisses pudding n'étaient pas très attirantes. Et je pense qu'il fallait certainement le goûter pour savoir si c'était bon ou pas. Voilà, alors pour revenir au treacle pudding, que je crois que c'est bien cuit dans un bain-marie, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est et comment tu le fais?
En fait, c'est très très simple. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je l'avais fait pour le dîner presque parfait parce que le temps était compté. Donc on peut le faire avec des petits-enfants, on peut le faire vite fait avant que des amis arrivent. En tout cas, pour la préparation de la pâte, il faut juste des œufs, de la farine, du beurre et un peu de lait. Et puis mélanger le tout et mettre ça ensuite dans un bol. Alors le bol, on prend un bol vraiment rond et on met le golden syrup tout au fond. Alors moi, j'en mets beaucoup parce que j'adore ça. Donc je mets plusieurs grosses cuillères à soupe.
On va expliquer ce que c'est le golden syrup juste après. Hein.
Ah oui, le golden syrup. Et une fois que mon golden syrup est posé dans le fond du bol, je pose toute la génoise que j'ai bien mixée, qui est très, très smooth, très, très lisse. Et on recouvre d'un papier d'alu et je mets ça au bain-marie pendant presque 2 heures, 1h30, 2 heures.
Ah ouais.
Et en fait, le golden syrup infuse à l'intérieur et il grimpe dans la génoise qui va cuire avec. Et donc, la génoise, en fait, il va y avoir comme un camailleux de goût dans la génoise parce qu'il y aura un goût très prononcé donc au sommet du gâteau une fois qu'on l'aura renversé. Et après, ça s'estompe petit à petit. Donc, c'est très, très bon. Et évidemment, ça se mange avec plein de crèmes différentes.
Oh, c'est totalement délicieux. Moi, j'adore. Oh, même avec une bonne crème anglaise, évidemment.
Alors, ouais, avec une crème anglaise, mais surtout avec la clotted cream. C'est surtout ça avec quoi c'est bon.
Ah ouais, toi, t'es vraiment gourmande. Hein?
Ouais.
Alors, le golden syrup, c'est quoi exactement? C'est une espèce de caramel?
Oui, alors, je le donne très souvent comme cadeau à mes amis français parce qu'ils ne connaissent pas et quand ils le goûtent, ils l'adorent. Mais ils me demandent toujours ce que c'est. Donc, moi, je le décris comme un sirop d'érable un peu caramélisé.
Mm-hmm.
Et comme un miel un peu plus prononcé, plus sucré.
Ça. C'est un goût très particulier entre miel et maple syrup. Et c'est vrai qu'on l'utilise partout dans la cuisine anglaise pour les gâteaux, même si tu le mets sur une glace qui est délicieuse parce qu'en fait avec le contact il durcit. Donc, ça devient vraiment un peu... il faut le mâcher un petit peu aussi, qui donne une texture tout à fait extraordinaire. Donc, c'est vraiment un ingrédient clé pour nos desserts.
Exactement.
Tu connais l'emballage, évidemment.
Ah bah oui.
Tu savais que c'est toujours dans la même boîte depuis son existence.
Ah oui.
Cette boîte de conserve est iconique. C'est donc vert et doré. Avec son logo, c'est un lion mort avec un nuage d'abeilles au-dessus. Alors moi, je n'avais jamais regardé ça, mais regarde de près, c'est un lion entouré d'abeilles.
Ah, je n'ai jamais regardé.
Et pourquoi cette image-là? C'est que l'inventeur, un certain Abraham Lyle, était très religieux. Et il a choisi cette histoire de Samson dans la Bible. Et Samson avait tué le lion avec ses mains.
Ouais.
Et quand il est retourné 3 jours plus tard, il a trouvé une ruche pleine de miel à l'intérieur de la carcasse. Alors, ce packaging et le logo est resté le même depuis toujours. En fait, c'est le plus ancien marque
mythique
au monde.
D'accord.
Alors, ce golden syrup, donc inventé par un Écossais, Abraham Lyle, quand il a construit une raffinerie de sucre à Londres en 1881. Et ce syrup, est un produit dérivé du processus. Alors, c'est après un deuxième passage de raffinement avec du charbon. Et c'est devenu ce sirop délicieux qu'il a vendu à ses employés, qui l'ont adoré. Et donc, il est surnommé le Goldie à cause de sa couleur dorée. Et donc, il s'est rendu compte qu'il avait un autre produit à vendre. Et en 1883, le Lyle's Golden Syrup est né. Mais alors là, il y a aussi encore une petite confusion parce qu'on appelle aussi ce syrup treacle. On peut en anglais intervertir. Donc, ton treacle pudding, en fait, c'est vraiment un golden syrup pudding. Parce que le treacle, c'est plutôt le melasse.
Ah oui.
Qu'on appelle le mélasse en France. Et d'ailleurs, ça vient du mot latin mélasse, qui veut dire miel, ou le grec ancien mela, qui veut dire noir.
Ouais.
Et le mélasse est une mixture aussi résultante du raffinage du sucre, extrait de la betterave sucrière ou la canne à sucre. Mais c'est beaucoup plus lourd, en couleur, c'est plus fort, et puis c'est assez amer en goût.
C'est ce que j'allais dire, c'est un peu plus âpre.
Alors moi, je pensais que c'était une légende, mais c'est vrai qu'avant la production industrielle de sucre dans le Caraïbes, il existait des mines de mélasse en Angleterre. Alors moi, je me suis dit, mais non, mais c'est une histoire comme Charlie et le Chocolate Factory. Mais pas du tout, ça existait vraiment. Alors c'était très rare, il n'y en avait pas beaucoup, et le plus important, c'était dans le Cumbria.
Ah oui?
Et d'abord, on a remarqué que les habitants autour de ces mines, ils étaient vraiment en bonne santé. Et ce mélasse noir se forme à partir des lits fossilisés de canne à sucre, un peu comme la tourbe. Mais la particularité de ces régions où il y avait les mines, c'est qu'il y avait une espèce de couche de roche non poreuse qui bloquait le sirop et le mélasse. Et donc, ça faisait une espèce de récipient. Et donc, il y avait ces commerces florissants de mélasse depuis très, très longtemps entre l'Angleterre et les Romains.
D'accord.
Et c'était une des raisons principales pour lesquelles les Romains ont voulu conquérir notre île, sinon assez froide et rude. Donc, voilà. Alors, les mines étaient gardées et protégées, très, très secrets, très prisées. Mais après, dans le 19e siècle, avec l'industrialisation du sucre, ils ont disparu. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à sécher. Et la toute dernière a fermé dans les années 30. Alors, une dernière petite anecdote. Il y avait quelque chose qui s'appelait la grande inondation de mélasse à Boston.
Oui.
Qui, en 1919, à Boston, il y avait une énorme citerne pleine de mélasse qui s'est rompue, créant un raz-de-marée de mélasse qui avance à une vitesse estimée à 56 km/h.
Wow.
Et qui a tué 21 personnes et blessé 150.
Mais non.
Ouais. On devrait pas régler. Alors moi, je connaissais le dessert Death by Chocolate, mais je connaissais pas Death by Treacle.
Oh là là.
Voilà, pour revenir à ton treacle pudding qui est en effet vraiment un golden syrup pudding. Dans la même famille, on a le Spotted Dick. Alors, ça fait penser à quelque chose pas très beau, mais en fait, ça fait allusion au raisin qui donne un aspect tacheté. t'acheter, comme dans ton dessert à toi, ils rajoutent des raisins et donc voilà, le spotté. Et un autre qui s'appelle le jam roly-poly.
Ouais.
Ou le bras de l'homme mort, parce qu'en fait, c'est une espèce de pâte sur laquelle on étale la confiture. Ensuite, on l'enroule et on en met dans une espèce de tissu qu'on cuit également dans un bain-marie ou au four. Mais ce qu'ils ont aussi en commun, c'est au départ, cette génoise dont tu parlais, c'était plutôt une mélange de farine et la graisse des rognons,
ouais.
le boule de suie. Alors, c'est encore utilisé aujourd'hui dans la cuisine britannique, parce que malgré son apparence ou même la description peu appétissante, ça apporte une vraie légèreté aux pâtes et des tartes et aux gâteaux.
Ouais.
Émilie, j'espère que je t'ai pas dégoûtée, ni tout le monde, parce que ton dessert, c'est quand même absolument fabuleux et somptueux. C'est vrai, c'est très rapide à faire en préparation. Il faut juste penser à le faire à longtemps avant, enfin, parce que la cuisson est assez longue, mais c'est le vrai comfort food. Et avec le sirop qui coule un peu sur les côtés, ouais, c'est très bon.
Et puis c'est très joli, cette espèce de dôme bien, bien parfait avec, avec sa crème autour. C'est tout l'ensemble est parfait en fait.
Ouais. Alors maintenant, Émilie, on arrive à ton moment de faux pas culinaire, un moment où bah, ça n'a pas aussi bien marché que ton treacle pudding. Alors, je crois que ça se passe pendant l'émission Un dîner presque parfait.
Ben oui, le dîner presque parfait. Donc, j'avais pris quand même aussi des recettes de maman, dont une qu'elle réussit systématiquement et qui, à chaque fois qu'elle la sert, tout le monde est juste bouche bée et finit d'ailleurs le plat. C'est son caviar d'aubergine. Alors, j'en ai goûté beaucoup un peu partout et la texture de celle de maman est vraiment très, très bonne. Donc, avant de faire l'émission, je lui avais demandé la recette. Et donc, le jour de l'émission, je prépare ma petite recette. Donc, je fais fondre mes aubergines. Je prends mes gousses d'ail. Donc, il faut savoir que c'est très, très facile à faire, normalement. Il y a juste besoin d'aubergines que l'on fait cuire au four, très lentement. Et puis, quelques gousses d'ail. Donc, maman m'avait dit 3 gousses d'ail, c'est parfait. Donc, j'épluche mon ail. Puis au bout de 10 minutes, je commençais un petit peu à en avoir marre et je me suis dit, bah, je vais pas en mettre 3, je vais en mettre 2. Parce que je trouvais que ça faisait beaucoup. Et puis c'était très fort en odeur. Je mixe le tout et puis là, je me dis, il y a quand même quelque chose de bizarre, ça sent très très fort l'ail. Et j'avais pas le souvenir que celle de maman sentait aussi fort l'ail. Et je goûte le caviar d'aubergine et alors là je crache immédiatement. Donc évidemment les journalistes qui étaient derrière moi et qui filmaient la scène se sont rapprochés et m'ont demandé de goûter et tout le monde a craché le caviar d'aubergine et en lisant la recette une des journalistes me dit mais Émilie c'est 3 gousses d'ail, c'est pas les têtes d'ail. Et en fait j'avais mis 2 têtes d'ail donc entières.
Oh non, ah bon. Oh oui, ça doit être dégueulasse.
Et c'était dégueulasse, c'était horrible. Donc personne n'a pu le manger et j'ai pas pu le servir. Donc c'est pour ça que les gens ont eu le droit à un peu plus de Marmite, donc sur du pain et du beurre et puis du coup sur du concombre, histoire de combler un peu les manquements de mon caviar d'aubergine.
Ah bah ouais, quand même. Bon, et alors avant de se quitter, par contre, tu m'as dit aussi, pour revenir au Golden Syrup une dernière fois, que tu l'offres toujours à tes amis. Alors où est-ce que tu trouves le Golden Syrup en France?
Ah bah ça, en France, je refuse catégoriquement de l'acheter en France. Donc j'ai mon côté chauvin anglais. Dès que je vais en Angleterre, en fait, je fais une razzia. Et j'achète justement le pot métallique parce que c'est celui que je trouve absolument magnifique. Et donc, je connaissais pas toute l'histoire de la tradition de ce pot parce que maintenant, ils font des pots en plastique, des squeezers et des trucs comme ça que je trouve pas beau du tout.
Ouais.
Et je trouve que ça retire le goût aussi parce que le métal donne un goût au golden syrup. Donc, je fais mes stocks là-bas et donc, j'achète tout plein de pots que je distribue au cours de l'année.
OK. Alors, pour ceux qui sont maintenant désespérés parce qu'ils vont pas en Angleterre... Dans certains supermarchés, là où il y a un petit peu une communauté anglophone, on peut le trouver. Moi, je le trouve en Bretagne.
On peut le trouver.
Et sinon, bah, en ligne. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a plein de conditionnements différents. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis plutôt traditionnelle. Bah, merci, Émilie, pour ce super dessert. Je savais qu'on a réussi à un peu expliquer à tout le monde ce que c'est un pudding.
Oui. C'est très, très clair.
Et la différence aussi entre le golden syrup et le treacle. J'espère que, voilà, maintenant, quand on dit un pudding, on ne dit pas « Ah, le Christmas pudding », mais on sait que ça peut être plein d'autres choses délicieuses.
Exactement, oui. Merci à toi, Sarah.
Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous avez cru à l'histoire des mines de mélasse ? C'est en fait une blague en Angleterre pour tester la crédulité des gens. C'est un peu comme l'argent qui pousse sur les arbres. Mais l'origine de cette blague date peut-être de 1853, quand 8000 soldats britanniques ont quitté un campement en Angleterre pour partir à la guerre de Crimée. Et ils ont enterré des tonneaux pour éviter de les emporter. Certains tonneaux contenant des mélasses ont été découverts par des villageois qu'on nommait des mineurs de Treacle. Et ainsi la blague est née et l'histoire enjolivée. Par contre, la tragédie à Boston, ça a vraiment existé. Vous pouvez trouver la recette de Treacle Pudding d'Emily sur mon site web lacremeanglaise.eu, sans accent sur la crème, ainsi que tous les autres épisodes. Vous pouvez écouter et vous abonner à La Crème Anglaise sur Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Alors à très bientôt pour une autre spécialité britannique. Cheerio and see you soon!